Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est les idées qui font que ça marche. Par exemple, les idées de gauche sont des idées pas saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire « il faut pas travailler », on est dans l'erreur. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, la gauche trompe, les syndicats trompent les Français. Trompent les Français en leur faisant croire des choses qui n'existent pas, qui sont pas vraies. On vit pas seul, on vit dans un monde. On a la concurrence nationale, on a les Chinois. Les Chinois vont gagner la bataille économique. On va devenir un pays sous-développé.
Mais, enfin, il faut Monsieur pas Dassault... Croire.
Aujourd'hui, c'est les Chinois qui s'enrichissent, c'est les Chinois qui vont racheter toutes les entreprises, et donc, comme des imbéciles, on se dit, ah, les acquis sociaux, ils vont pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça, la vérité.
Alors, de la camionnette qui rentre de Rion avec Christopher, Joël, Jean-Marie, Jean-François et Alain, en revenant de Rion, on a gagné les doigts dans le nez. Ils ont perdu les doigts dans le cul. Merci, ciao.
Salut Daniel, c'est Aurélie de Lyon. Je t'appelle juste pour te dire que ma petite fille est née la semaine dernière. Elle a 7 jours aujourd'hui, mardi. Et moi, je lui souhaite de vivre dans un monde qui tienne la route. Alors, je vais y croire un petit peu parce que si jamais on me dit que tout se casse la gueule, c'est même pas la peine de faire des bébés. Et celle-là, elle vaut vraiment le coup. Je vous embrasse tous. Salut.
Bonjour à l'équipe de La Bâche, j'y suis. Bonjour aux auditeurs. Tous les jours, je suis effarée par les nouvelles. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo propose 200 000 postes pour les jeunes, c'est-à-dire comme emploi répondre aux appels téléphoniques. Vous avez intérêt à bosser les jeunes à l'école. Ça va être vachement utile. Jamais vous n'auriez pensé faire ce métier. Eh bien, le gouvernement y a pensé pour vous. Bientôt, vous ne déciderez plus de choisir un métier. Vous prendrez celui que l'État vous imposera. 2 jeunes sur 3 sont en demande d'emploi. Encore 2 ans et demi à avoir ce genre de nouvelles. Je ne sais pas si on va tenir le coup. Marie-Paul de Villejuif. Au revoir.
J'entends ce matin sur France Inter M. Candessus qui nous a apitoyés sur les problèmes de l'eau dans les pays pauvres. Devant les critiques de certains auditeurs sur le rôle joué par le FMI dans les 10 pays pauvres, il s'est étonné, n'a pas compris ce qu'on pouvait lui reprocher. Et s'est donné une image de gentil défenseur de ces pays sans que personne ait pu lui répondre. Je conseille à tous la lecture de l'ouvrage « La grande désillusion » de Joseph Stiglitz, qui a été vice-président de la Banque mondiale et qui explique le libéralisme, les erreurs et les intérêts troubles du FMI et de M. Candessus dans les pays pauvres. Bonne lecture.
Oui, en démocratie, les pauvres sont rois parce qu'ils sont en plus grand nombre et parce que la volonté du plus grand nombre a force de loi. Et qui c'est qui a dit ça? Ben, c'est Aristote. Aristote. Il ne devait pas être américain du Nord. Ah, mais américain, si, si. Il est américain du Sud. Bolivarien. Chez Chavez. Voilà. Ciao, Marie-Christine.
Alors, petit exercice mathématique. Arrondissons le salaire mensuel de Serge Dassault à 1 million d'euros par mois. Allez hop. Si on considère, pour rire, qu'il gagne le SMIC brut horaire à 7,60 euros, il doit travailler donc 359 heures par jour pour atteindre sa paye du mois. 359 heures par jour. Voilà de quoi satisfaire le MEDEF, hein. C'était Nico de Vienne. Salut.
Je suis ravie d'entendre parler de l'Amérique latine dans cette émission. Merci pour ce rayon de soleil dans l'océan ultralibéralisme. Et à travers les témoignages sur ce qui se passe au Venezuela, je retrouve l'ambiance que j'ai connue en Colombie dans les bidonvilles. Le peuple latino est plein d'énergie et de ressources. D'astuces aussi. Les Cubains le montrent tous les jours avec le blocus. Bush peut en avoir peur, car l'énergie vitale de ce peuple peut le bouffer un jour. Merci encore pour cette note d'espoir. Nous en avons besoin. C'était Martine de Besançon.
Allô, bonjour, c'est Ramiro Oviedo. Je viens d'écouter votre émission sur le Venezuela. J'étais ravi. Alors, je voulais vous féliciter et vous encourager à continuer. Faites des émissions comme ça. Merci beaucoup. Si éventuellement vous pouvez m'aider à trouver de la musique vénézuélienne, moi je suis professeur d'espagnol dans le Nord, ici à Boulogne-sur-Mer, et je me sers parfois de support musique. Alors, j'adore cette musique vénézuélienne, mais j'ai du mal à trouver, si vous pouvez me suggérer un endroit à Paris ou quelque part pour acheter des joropos, tous ces rythmes que vous nous avez mis, par exemple la chanson de Chavez. J'adore. Merci beaucoup.
Voilà vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis précédé par les facéties de notre nouveau comique révélé il y a quelques jours par France Inter. Vous l'aviez reconnu. Alors ouais, pour trouver des disques et de la musique vénézuélienne, il y a sur le site franceinter.com, là-bas, si j'y suis, il y a des indications sur les disques qu'on a programmés hier. Et puis, dans quelques jours, effectivement, on partira pour le Venezuela avec un joyeux Noël que vous allez entendre, là, qui a été apporter des quartiers de Caracas. Aujourd'hui, pour répondre un petit peu aux interrogations de notre nouveau comique national, donc révélé par France Inter, qu'est-ce qui mine véritablement la France? Qu'est-ce qui nous menace profondément? Eh bien, on l'a trouvé avec Guy Latébi, on l'a trouvé, ce sont les rouabes. Oui, c'est les rouabes qui menacent profondément les fondements de ce pays, les valeurs de ce pays, l'unité nationale de notre pays. Et on va vous en dire plus après ce message, un seul message qui suit au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je m'appelle René Frény, je suis écrivain. Je viens d'écrire une lettre au ministère de la Justice. Si vous permettez, je la lis. J'ai ouvert un restaurant il y a 7 ans avec un homme qui sortait de prison, un de mes anciens élèves des Baumettes, où j'anime depuis 14 ans un atelier d'écriture. Cet homme a de nouveau été arrêté quelques années plus tard et j'ai été mis en garde à vue. Le procureur de la République et le juge d'instruction, qui avaient fait grand bruit autour de mon arrestation et de mon nom, je suis écrivain, alors que j'étais en garde à vue, n'ont rien trouvé de mieux pour justifier ce viol de la présomption d'innocence que de me mettre en examen sous contrôle judiciaire. Voilà un an que chaque semaine, je me soumets à cette épreuve humiliante. Je vais signer au commissariat et je n'ai pas le droit de quitter le territoire national. Cette humiliation peut durer des années. Je suis fatigué, je ne le supporte plus. Je n'ai absolument rien à me reprocher. J'écris chaque jour et j'élève ma fille. Voilà ma vie. Je viens de décider que je n'irai plus dans ce commissariat présenter ma carte d'identité et signer. Depuis un an, le juge refuse de me recevoir alors que j'en fais chaque mois la demande. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Le regard d'un innocent, ça fait peur. Cette innocence, j'ai envie aujourd'hui de la hurler pour mes voisins, ma fille, mes proches, la terre entière et moi-même. Je déclare que je ne respecterai plus les décisions d'un juge qui ne me respecte pas. Dès aujourd'hui, je ne signerai plus ce contrôle judiciaire. L'affaire Outreau ne peut pas se multiplier sans réaction et la tache noire qui apparaît sur le visage de la justice ne peut pas s'élargir plus. Cette lettre n'est pas un défi, c'est un cri de révolte et de fatigue. Voilà, je viens de vous lire ma lettre et j'ajoute, depuis 14 ans, je vais dans les prisons faire écrire des détenus, je n'y ai rencontré que des pauvres, c'est vraiment une poubelle la prison pour déverser les pauvres, et j'appelle vraiment tous les gens qui sont en contrôle judiciaire et qui se sentent aussi innocents que moi à ne plus signer leur contrôle judiciaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci, bonsoir à tous.
Feliz Navidad.
Joyeux Noël.
Feliz Navidad. No, quisiera cantarle algo que dice. No sabes el por qué los viejos lloran cuando llega Navidad. No sabes el por qué se sienten tristes cuando un año se nos va. Hoy cumpliendo 36, camino de muchos más, lo he podido averiguar. Tuve ganas de llorar, llorar por lo incierto del futuro y que será un golpe duro si un día falto en mi hogar y llorar por saber que es imposible que cuando sientan mi ausencia digan feliz Navidad. No quiero llanto, quiero cantar. Quiero alegría, ya llegó la Navidad. Ese es el mensaje. Okay.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dylan Tebi, là-bas j'y suis, pour avoir une bonne vie.
Flight number 2, arriving from New York.
Allô, bonjour, ici Patricia de la Moselle. J'appelle pour vous signaler qu'il y aura une manifestation de soutien à la famille Rouab, qui est en voie d'expulsion. Alors le papa a été expulsé parce qu'il n'avait pas de papier. Et la maman reste ici chez nous, donc en Moselle, à Algrange en fait. Et elle reste avec ses enfants qui sont cachés dans la famille, parce que si on les attrape, elle et ses enfants, eh bien on va les exclure, on va les expulser tous. Et ils ne méritent pas ça, franchement, ils ne méritent pas ça du tout. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous aider. Au revoir.
Qu'est-ce qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ? Les privatisations, la délocalisation ou les Rouab ? Quel est le sang impur dont nous ne voulons pas, même pour abreuver nos sillons, le sang contaminé, le boudin puré ou les Rouab ? Qu'est-ce qui menace notre culture ? Patrice Lelay, McDonald's ou les Rouab ? Eh bien voilà, c'est les Rouab. Vous aviez deviné, c'est évidemment les Rouab. Vous venez d'entendre un message d'une auditrice dont vous vous souvenez peut-être il y a quelques semaines, Patricia, qui a attiré l'attention sur le cas de cette famille d'Algériens, depuis 4 ans installée dans ce village de la Moselle, et qui sont éclatés, séparés maintenant. Le père a été reconduite à la frontière, c'est-à-dire vers l'Algérie, et la maman est restée seule avec ses 6 enfants, dont la plupart de ses enfants sont cachés aujourd'hui, des enfants cachés. C'est un cas qui n'est pas rare, mais il se trouve que les habitants de cette petite ville ont trouvé que c'était tout à fait insupportable, et ils se sont réunis, ils se sont constitués en association, en collectif, et ils ont essayé de faire un peu de tapage autour de cette situation parfaitement inhumaine, parfaitement déplorable et parfaitement déshonorante pour notre pays et pour nous tous. C'est que il y a des Français qui résistent à ces rigueur de la loi. Il y a 2 jours, le 14 décembre, des passagers d'un vol Paris-Kinshasa se sont opposés à des expulsions. Il se trouve qu'il a fallu que des passagers s'opposent à cette expulsion pour qu'on se souvienne qu'il y a quotidiennement des reconduites et des expulsions. Là, c'est simplement que les voyageurs trouvaient un petit peu désagréable de voyager auprès de gens qui étaient attachés et qui étaient entravés. Et ils ont obtenu gain de cause, l'appareil n'a pas décollé. Ben, c'est un peu ce qui va se passer dans ce petit village de Moselle. C'est cette résistance, une résistance spontanée, comme la spontanéité de Patricia. Il y a un moment, c'est non, c'est ras-le-bol. Je me souviens d'un mot que disait mon papa, Georges, il disait « t'as pas chié la honte ». T'as pas chié la honte. On a l'impression parfois que dans ce pays, certains chient la honte. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, c'est simplement pour avoir une bonne vie.
Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays si tu le veux.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français.
Avec ces sans-papiers
qui vont bientôt repartir
vers leur pays.
on a tout pris, chez eux, y a plus rien.
Imaginez, ça serait le préfet qui aurait pas de papier, rien du tout.
J'ai pas de problème de conscience dans ce dossier. Me semble-t-il, la dimension humanitaire a été prise en compte.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité l'idée
à la ronde. Et dans ce flot d'univers rien, j'aurai plus de nom, j'aurai plus rien.
Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Madame Lagra, donc là on est dans votre cabinet.
Oui.
Et avec vos clients.
Donc avec Madame Rouab, sa fille, donc Imen et son père.
Voilà, voilà. On est dans le cabinet de l'avocate de la famille. Et ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu réunir tout le monde. Dila voulait rencontrer tout le monde, toute la famille. Toute la famille, c'est-à-dire la maman et ses enfants qui sont restés, qui sont encore... En Moselle, et parce que le père, je vous l'ai expliqué, a été expulsé au bout de 4 ans d'une vie tout à fait paisible et intégrée dans cette petite ville. Et ben voilà, un beau jour, il a été reconduit à la frontière, laissant sa famille et les enfants. Et les enfants, de peur d'être reconduits eux aussi, deux sont nés en France et 4 sont venus d'Algérie avec la maman. Et de peur d'être tous reconduits, les enfants se cachent, des enfants cachés qui croiraient encore à ces images qui font penser à d'autres, à des souvenirs terribles, des enfants cachés pourtant, voilà, ces enfants se cachent dans cette crainte là aujourd'hui chez nous, dans notre bel hexagone de l'asile et des droits de l'homme. Et il a fallu que la protection, si on peut dire, de cette avocate pour qu'on puisse les rencontrer tous, dont cette jeune fille, l'une des filles, qui s'appelle Imen et qui a 15 ans.
Bah moi j'ai envie de dire que je suis en France, je suis bien quoi. Je souhaiterais continuer mes études et puis avec mes frères et tout ça, on est habitués. Et puis même si on va en Algérie, on a rien. Et puis on a tout oublié quoi, l'arabe, on parle bien français quoi.
Tu es en quelle classe?
Je suis en seconde carrière sanitaire et sociale.
Comment tu fais pour l'école maintenant? Est-ce que tu as tes copines ou des copains de classe, des professeurs qui t'envoient des cours ou quelque chose?
J'ai un livre et je révise.
C'est un petit garçon?
Oui, c'est Mehdi. C'est effectivement Mehdi, donc c'est le dernier des 6 enfants, qui a un peu plus de 8 mois donc, maintenant. C'est celui effectivement qui a été privé de la présence de sa mère pendant une quinzaine de jours.
Donc là, pendant qu'on parle, t'as Mehdi là, qui tire la capuche. Où est-ce que t'as envie de vivre aujourd'hui?
En France. J'ai envie de vivre en France parce que je trouve la France c'est bien, c'est un bon pays et puis voilà, je me sens bien ici quoi.
Le petit Mehdi. Non, Mehdi, t'es trop petit pour parler dans le micro. Il a eu au téléphone ton père dernièrement?
Non, depuis que il est parti, on a rien. J'ai rien de ses nouvelles.
Et depuis 2 mois, comment est-ce que vous vivez, ta mère, toi, tes frères et sœurs, comment ça se passe depuis que ton père a été expulsé?
On est toujours caché et puis mes frères, il y en a que je les vois pas.
Quelques mots peut-être?
Elle parle pas français.
Vous avez vu les cernes, elle ne mange pas depuis plusieurs jours, elle ne s'alimente pas et elle souffre énormément puisqu'elle a absolument aucune nouvelle donc de ses enfants. Imen, elle l'avait pas vue depuis plusieurs jours. Yassine, ça fait plusieurs jours qu'elle l'a pas vue non plus. Donc son autre enfant, elle ne le voit pas. Elle a pas de nouvelles de son mari depuis qu'il a été expulsé. Donc c'est une femme qui effectivement se raccroche à son fils comme à une bouée de sauvetage.
Alors au plan humanitaire, où dit-on, tout a été respecté, le plan humanitaire. Seulement, voilà, c'est un mot qui s'est beaucoup, 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 beaucoup dégradé au fil du temps. On a eu des guerres humanitaires, on a parlé de mercenaires humanitaires. Donc le mot humanitaire ne vaut plus grand-chose en l'occurrence. Il y a un homme qui est là et qui regarde ça assez effaré. C'est Monsieur Melki. Monsieur Melki, il a 59 ans, et si la famille s'est installée là, à Algrange, c'est que Algrange, c'est en Moselle et c'est dans les zones de sidérurgie. De la sidérurgie. Et Monsieur Melki, ben, il est de la première génération de ceux qu'on accueillait à bras ouverts au temps de la sidérurgie florissante.
Vous êtes en France depuis combien de temps?
Bientôt la retraite. J'ai venu de l'âge 19 ans jusqu'à bientôt 40 ans.
Donc en ce moment, vous travaillez?
Oui, je travaille toujours, oui. J'ai toujours travaillé. J'ai les papiers, j'ai tout en ordre, quoi, en règle, mais il n'y a pas de problème. Je m'inquiète pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est malheureux, quoi. Traumatisé, comme on dit en français, c'est ça. Quand quelqu'un est son, même de la famille, il vient comme ça sonner, il dit « Ouais, maman, elle vient me chercher ». Voilà, ça me touche ici, sa famille, ça touche ici, ma fille. Il n'y a personne en Algérie pour cueillir là-bas. Il est perdu, il ne sait pas ni lire, ni écrire, ni travail, ni maison. Bah, c'est la vérité, c'est le pays de France, sa famille est ici, il y a tout le monde ici. Nous, on souhaiterait, si monsieur le préfet ou monsieur le ministre, ben, il fait un geste, c'est pas question de droit, on respecte le droit français, on s'en met ici, on vit comme un hein, français, mais c'est un geste, c'est Noël, et les enfants, ça dans la rue, ça peur et tout ça. C'est tout ce qu'il y a à dire, si ça va.
Un geste du ministre?
Ben, un geste du monsieur le ministre. Si vous regardez les enfants là, qui peuvent vivre tranquillement, dignement, avec sa mère, ici.
Votre fille, elle est née où?
Elle est née en Algérie. Bon, sa grand-mère, il est marié avec M. Rawep, nous, on n'était pas au courant. Bon, à cause de ça, il est resté en Algérie jusqu'à l'avenir en France, quoi. Et si, ici, en France, il n'y avait pas les amis, les gens qui nous ont aidés et tout ça, ben, il sera dans la route, quoi.
Voilà maintenant. Des semaines à Grange, donc en Moselle, qu'un collectif de soutien se démène pour empêcher que Khalidja Wahb, la maman, et ses 6 enfants ne repartent en Algérie, un pays qu'elle, Khalidja et son mari Ahmed, et leurs 4 enfants, 2 autres sont nés en France, ont quitté en 2000. Ils sont installés à Grange, où elle s'était intégrée, cette famille, à la population. Et la famille a vu sa demande d'asile territorial rejetée par la préfecture de la Moselle. Une décision confortée par le tribunal administratif de Strasbourg. Les Rouabs se sont donc retrouvés en situation irrégulière. Le 2 octobre dernier, le père était interpellé. 6 jours plus tard, il est renvoyé dans ce pays où il craint pour sa vie. Il est paniqué à l'idée de subir le même sort et que la mère et les enfants qui ont décidé de se cacher. C'est comme ça que ça se passe. Explication et précision par Maître Lagra, avocat de la famille.
On peut effectivement nous dire, donc les mauvaises langues, mais écoutez, il y a plein de gens qui veulent venir en France. Les gens s'élèvent contre cela en disant on ne peut pas accueillir non plus toute la misère du monde. Il faut juste rappeler donc qu'à l'origine, il y avait quand même des menaces de mort donc contre M. Rouab, qui était le chef de famille, qui était le seul à travailler. Hein. Mais en plus, M. Rouab, dans la mesure où il enseignait donc la musique, qui effectivement, pour certains Algériens très très extrémistes, n'a absolument pas évolué, la musique, pour eux, c'est quelque chose donc de fantaisiste, d'intellectuel, qui n'a pas lieu d'être finalement hein, en Algérie. Et donc pour lui effectivement il devait absolument, en tout cas pour ces gens-là, arrêter donc d'exercer cette profession-là. Partant de là, où aller puisque lui maîtrise parfaitement la langue française. Il, donc, la famille de Madame Rouab étant en France, le choix s'est fait tout à fait naturellement. C'est pour ça, effectivement, qu'ils sont venus en France. Alors dans ce type de dossier-là, et plus précisément dans la situation de Monsieur Rouab, quoi faire? Quand effectivement il tente donc au maximum d'apporter des preuves pour prouver que sa demande donc de titre de séjour est parfaitement justifiée, eh bien on lui dit bah, écoutez monsieur, on est désolé, on peut pas faire droit parce que bon, vos pièces ne sont pas suffisantes. Mais moi, ce qui m'a choqué donc par rapport à la motivation du jugement du tribunal administratif, c'était le fait de dire écoutez, en clair, hein, l'État français a été suffisamment patient et généreux puisque pendant 4 ans vous avez bénéficié de fonds de solidarité, ce qui m'a personnellement, à titre personnel, m'a énormément choqué. choquée, j'ai même été scandalisée, parce que dans ces cas-là, pourquoi attendre 4 ans pour finalement du jour au lendemain se réveiller et puis finalement s'apercevoir qu'il y a une urgence à expulser comme ça du jour au lendemain Monsieur Roy, délivrer un arrêté de reconduite à la frontière, et dès lors qu'on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'associations qui effectivement se mettent en mouvement, immédiatement 2 jours après il est expulsé. Je trouve ça complètement scandaleux.
C'est vrai que c'est une situation irrégulière, que bon, je ne soutiens pas toutes les situations irrégulières, mais c'est quand même une famille qui a dû quitter son pays d'origine par rapport à l'explosion de leur maison. Donc ils sont venus en France avec un visa de
Roland Ruchet,
en demandant un droit d'asile qui leur a été refusé.
Maire d'Algrange.
Et ensuite, pendant 3 années, donc cette famille a vécu sur la ville, s'est parfaitement intégrée. Puis, bon, c'est ça qui m'a vraiment motivé, hein. C'est la connaissance, bon, de cette famille.
Qui s'inscrit en porte-à-faux dans l'histoire? Il y a la préfecture d'un côté qui est une structure, et de l'autre, il y a une autre structure, c'est quand même vous, la mairie, le député.
Oui, bien sûr, mais bon, l'autorité de l'État s'abrite derrière la loi. Et bon, nous, on dit que le droit, bon, c'est vrai que sur le plan strict du droit, ils étaient en situation irrégulière, mais bon, je crois que le droit, parfois, bon, il faut lui faire subir certaines dérogations par rapport à des particularités. Et je crois que ce qui entoure cette affaire de la famille Roy, bon, est une. J'ai écrit cette semaine, pas plus tard que mardi, au préfet. Donc j'attends une réponse et puis...
Il y a combien de maires avec vous?
Bon, il y a 22 maires dans la circonscription, il y a 3, 4, 5 parlementaires, sénateurs et députés. Bon, un certain nombre affirment leur soutien, puisque bon, la lettre qu'on a remise au préfet il y a 3 semaines, 80% des maires consultés de l'arrondissement ont répondu favorablement et ont signé la pétition.
Et au niveau de votre mairie, vous avez tout le monde avec vous ou alors
Non, c'est une position qui fait pas l'unanimité, mais je respecte tout à fait ce choix. Il y a des gens...
Du côté des habitants non plus?
Du côté des habitants, non, il n'y a sûrement pas l'unanimité, hein. C'est certain que c'est un sujet sensible. Bon, c'est quand même une ville où l'extrémisme, bon, est assez important, hein, puisque le Front National, suivant les consultations, fait entre 17 et 25%. Donc on ne peut pas dire que sur la ville, il y ait unanimité sur ce dossier.
Vous prenez un risque?
Il faut toujours prendre des risques quand on fait de la politique. Ouais. Un problème de conviction. Moi, j'y crois, donc je me préoccupe pas de savoir si électoralement c'est payant ou si ça peut être néfaste. Je réagis par rapport à des convictions, et ma conviction est qu'on est face à une injustice qui touche cette famille.
C'est des gens qui sont là depuis 4 ans. C'est des gens qui sont impliqués à la vie, dans la vie locale. Monsieur Wab, c'était quelqu'un qui était enseignant. Alors, dans un premier temps, le temps de sa demande d'asile, il était dans l'interdiction de travailler, donc il avait envie un petit peu de se rendre utile. Comme il a bien été accueilli par la mairie, bah, il a fait partie un petit peu d'une chorale par rapport, il a essayé d'apporter ce qu'il savait faire, quoi. Ils se sont jamais cachés, ils ont jamais essayé de faire croire qu'ils étaient en règle alors qu'ils n'étaient pas, pour eux, ils étaient un petit peu, comment dire, pratiquement régularisés d'une certaine manière. Condamné à quelque chose d'un petit peu informel au niveau du statut, mais par contre, le maire savait, la police savait.
Ah bon?
La police d'Ayange savait. C'est pas la police d'Ayange qui a prévenu la PAF.
Il y a une dénonciation.
C'est pas, voilà. J'en sais pas plus, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas la police d'Ayange. Moi, j'ai appelé au même moment. La police ne savait pas. Par contre, il savait que la police aérienne des frontières venait en nom pour saisir une femme de nationalité algérienne.
Voilà, on est avec Sylvain Descamps de la Ligue des droits de l'homme. Et on va où ça? Eh ben, à la préfecture, puisqu'on a déjà parlé à plusieurs reprises du préfet. On va essayer de rencontrer quelqu'un d'important ou de responsable à la préfecture.
Il y a plein d'usines là.
La vallée de la Fench, c'est un site traditionnellement sidérurgiste. Hein. Ce qui implique aussi, il y a eu un gros besoin de main d'œuvre à un moment. Il y a eu une vie comme ça, un dynamisme, de l'argent. Des gens qui sont venus d'autres régions de France pour travailler aux usines. C'est le cas du papa de Madame Rouab, qui est en France depuis des années, qui travaille, qui est encore en activité professionnelle d'ailleurs. Hein. Et il y a beaucoup dans la première génération sur le secteur. Il y a une forte communauté maghrébine notamment, hein, de gens qui sont venus bosser à l'usine, qui maintenant se retrouvent retraités de la sidérurgie comme ça.
ça fait un peu partie du folklore du coin. Je serais tenté de dire nos monuments historiques, nous, c'est un petit peu les usines désaffectées. Avant, si tu veux, l'employeur, c'était la sidérurgie.
On arrive à l'accueil.
Je vais voir ce qu'on peut faire. On va essayer de régler ça aujourd'hui.
Bonjour.
On s'appelle.
Oui, exactement. Je suis attendu.
Vous êtes attendu. Alors, on va téléphoner.
Oui. De quoi tu me parles ?
Patricia, France Inter pour Monsieur Ganivac. D'accord, donc il peut monter directement dans le bureau. D'accord. À tout à l'heure, ciao. Alors, la porte derrière le téléphone, 223.
Merci. Merci. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Ah, ça y est, c'est en direct, là. Enfin,
vous avez un grand bureau. La photo de...
Du président de la République, comme traditionnellement dans toutes les mairies, toutes les préfectures.
Et vous avez beaucoup de médailles en dessous du portrait de monsieur Chirac.
Alors ça, c'est des médailles communales.
Comme récompense de...
Non, pas du tout. C'est comme témoignage de notre présence à l'occasion de telle ou telle cérémonie municipale.
Alors, vous, exactement...
Alors, je suis le secrétaire général de la préfecture. C'est-à-dire que ma fonction est double. Elle est de faire marcher la machine préfecture. Ce sont des machines lourdes avec beaucoup de fonctionnaires. Et puis, elle est aussi de faire la coordination de l'action publique menée par les différents services déconcentrés de l'État dans le département.
Donc vous avez un poste important.
Écoutez, c'est un poste à responsabilité, mais comme il y en a d'autres...
Voilà, un poste à responsabilité, celui de Monsieur Ganibin, qui est secrétaire général, donc, de la préfecture. Résumé de l'histoire, la famille Rouab, qui subissait en Algérie des exactions en raison de l'engagement de Monsieur Rouab, notamment dans la vie culturelle de son pays. Les Rouab sont donc venus habiter en France en 2000, à Algrange, en Moselle, près de Metz, où le père de Madame Rouab vivait depuis longtemps, il vient de nous le dire. Donc Monsieur Rouab étant professeur de musique en Algérie et n'ayant trouvé aucun travail à Algrange, il participe activement à la vie associative, il distribue de la nourriture et des vêtements avec le Secours Populaire. 5 de leurs enfants sur 6 sont scolarisés. Il y en a un tout petit qui a 8 mois, leurs enfants sont âgés de 8 à 16 ans. À son arrivée en France en 2000, la famille Rouab demande l'asile territorial. Cette demande est rejetée par la préfecture de Moselle. Rejet confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg, je le rappelle. La famille Rouab se retrouve ainsi en situation irrégulière. Le 2 octobre 2004, le père Ahmed Rouab, âgé de 42 ans, est contrôlé par la police. Le 8 octobre, il est expulsé en Algérie. Sa demande d'asile territorial, formulée par la famille, ayant été rejetée. Et toujours en octobre, Madame Khadija Rouab a été mise en rétention administrative dans la région de Metz, puis transférée à Bobigny, c'est-à-dire dans le 9-3, c'est-à-dire bien loin de Metz, et ceci pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, elle a été séparée de son bébé de 8 mois, son nourrisson qu'elle allaitait. Voilà le résumé de la situation, ce qui indigne évidemment, on a compris, ce collectif qui attire l'attention sur cette histoire, sur ce cas, et qui milite pour qu'une situation, peut-être pas humanitaire, mais au moins humaine, soit trouvée. Le secrétaire général, Monsieur Ganibin.
Moi, je suis là aujourd'hui par rapport à la famille Rouab, dont le père a été expulsé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui a une décision de reconduite à la frontière qui a été exécutée. Elle et ses enfants ont un peu disparu et se sont fondus dans le paysage. Elle a été ensuite elle-même interpellée. Avant d'organiser son départ, elle a été mise en rétention administrative, ce qui est la procédure habituelle. Elle n'a pas souhaité partir avec ses enfants. Bon, nous n'avons pas voulu la séparer de ses enfants.
Alors, vous savez combien d'enfants ont les...
Je crois qu'ils en ont 6, dont un enfant en très bas âge.
La préfecture savait que Madame Rouab allaitait.
Mais écoutez...
Ah, c'est oui ou non?
Mais oui, mais bien sûr, mais il n'est... Il n'était pas question de séparer la mère et les enfants.
Donc, monsieur le secrétaire général de la préfecture, vous saviez que madame Rouab allaitait un nourrisson de 8 mois. Elle a été donc placée en centre de rétention. Et ensuite, elle a été transférée de la région de Metz jusqu'à Bobigny. Mais comment est-ce qu'on explique ça en droit?
Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Nous n'avons pas voulu séparer madame Rouab de son nourrisson, à aucun moment.
Alors pourquoi elle s'est retrouvée à Bobigny?
Elle s'est retrouvée à Bobigny pour être dans de bonnes conditions, justement, par rapport à Thionville, où elle était. Bobigny permet de recevoir notamment des femmes et des familles. Donc ça lui permettait de faire rejoindre sa famille dans de bonnes conditions avant le départ en Algérie.
Et donc elle a choisi de ne pas recevoir sa famille à Bobigny, et finalement, elle a choisi quoi? D'ouvrir la porte et de sortir?
Non, c'est-à-dire que nous avons dit qu'à partir du moment où nous constations qu'elle ne pouvait pas repartir en Algérie avec sa famille, nous n'allions pas la garder pendant toute la durée de la rétention, on tirait les conséquences et on la laissait repartir. Mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que nous régularisions ces situations. Voilà.
Vous l'avez fait revenir à Metz ou vous l'avez laissé telle quelle à Bobigny?
Nous avons mis fin à la situation de rétention administrative. Bon, bah après, madame Rouab, librement, a fait ce qu'elle a voulu. On n'est pas censé savoir où elle est, d'ailleurs, à l'heure actuelle, et je crois que nous ne le savons pas. Il y a un grand nombre de familles, de personnes qui sont en situation d'irrégularité sur le territoire français. Ces personnes sont, à la suite de toutes les procédures administratives et de toutes les garanties, reconduites à la frontière. La quasi-totalité d'entre elles sont reconduites à la frontière sans que personne en parle, dans une sorte d'indifférence générale. Pour un certain nombre de personnes, il y a des collectifs. Et la question qui se pose, et c'est là, je dirais, on peut peut-être soumettre ça à la sagacité et à la réflexion des auditeurs. Pourquoi est-ce qu'il y aurait, pour des personnes qui sont dans les mêmes situations juridiques, qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, pour certaines, pour beaucoup d'entre elles, elles repartent sans que ça émeuve personne, et d'autres bénéficieraient de passe-droit parce que un collectif serait là pour les soutenir. Nous avons la nécessité de traiter les affaires avec humanité, mais nous avons aussi la nécessité d'assurer une égalité de traitement entre tous les étrangers qui sont sur notre territoire. Voilà la réponse. Moi, je ne peux pas en faire une autre. Donc, on ne peut pas. Ça serait un passe-droit.
Ah, c'est ça. Mais vous avez peur de...
Mais je n'ai peur de rien. Je vous dis encore une fois que nous avons la nécessité de traiter les étrangers de la même manière.
Donc la famille Rouab, c'est pas la seule dans ce cas-là.
Non, écoutez, là il y a un problème de principe. Là, on est en train, vous me posez 15 fois les mêmes.
Là, c'est la première question. Est-ce que la famille Rouab, c'est le seul cas pour cette région?
Je n'ai pas de chiffres particuliers.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'il est possible de rencontrer monsieur le préfet?
Oui, là, moi, vous êtes en train de me ficher un traquenard. Hein. Moi, je vous ai reçu alors que, initialement... Et vous allez me couper ça, hein, parce que je ne sais pas ensuite... je ne comprends pas que ça soit constamment enregistré, donc je vous demande d'arrêter, parce qu'il y a des trucs dont nous parlons demain homme, je veux dire...
Non. Mettez la main sur le micro,
car... Arrêtez l'enregistrement, il y a des discussions qu'on peut avoir comme ça. Off.
Bon... En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir.
Ah, longs enfants, à nos enfants, à nos enfants.
Mais non, le secrétaire général de la préfecture de Metz n'est pas un homme mauvais. Simplement, il fait un boulot qui parfois tourne au sale boulot, puisqu'il doit appliquer, eh bien, les consignes ministérielles. Et ces consignes ministérielles incitent les préfets à doubler le nombre de reconduites à la frontière, et ce depuis octobre 2003. En 2002, seuls 22,5% de l'ensemble des mesures d'éloignement avaient été exécutées, et dans une note adressée au préfet du 23 janvier 2004, eh bien, il est stipulé en conséquence, vous voudrez bien, c'est à monsieur le préfet de la Moselle, vous voudrez bien mobiliser au mieux les services de l'État afin d'obtenir l'exécution de 540 mesures de reconduite à la frontière pour l'année 2004, qui correspond au doublement de ces mesures exécutées en 2002 au lieu et place de l'objectif de 317 que vous vous étiez fixé. Donc on dit au préfet, il faut en virer plus. Et voilà, et le préfet, eh ben, c'est un bon fonctionnaire, il fait bien son travail, il obéit à son ministre, et c'est ainsi que la famille Rouab se trouve dans cette situation, ce qui ne déplaît pas à tout le monde. Petit tour au bistrot.
Je pense que c'est de la merde, point à la ligne. On n'a qu'à s'occuper des cas sociaux de la ville d'Agrange au lieu de s'occuper des gens comme ça qui savent très bien avant d'arriver qu'ils doivent repartir dans leur pays. Et vous direz au maire qu'il n'a qu'à s'occuper de ses administrés au lieu de s'occuper des gens de l'extérieur. Quand on est élu maire d'une commune, c'est pas politique, c'est pour les administrés. Si nous on fait la même chose, si on va dans leur pays, on est tout de suite rapatriés. Vous avez été faire votre interview en Algérie, voir où il est le père? Ben, allez faire un tour. Et après, vous venez nous voir.
Mais je vais aller voir le Secours Populaire.
Ça, c'est des gens utiles. Là-dessus, je suis d'accord. Mais oui, vous parlez à un RNiste. Il faut dire la vérité, oui. Moi, je l'ai dit. J'ai rien. Et on va s'occuper des gens. Nous, si on défile, on ne nous écoute pas.
Par rapport au Secours Populaire, vous allez les voir?
Je vais chercher des repas. Je vais chercher des boîtes. J'ai 150 euros par mois. Voilà. Je suis diabétique, simplement. On ne veut pas me donner du boulot à 58 ans. Vous trouvez ça normal? Moi, demain, on me dit, vous payez pas votre loyer, on met dehors. Et c'est pas pour ça qu'Algrange a défilé pour moi.
C'est vrai que d'un côté, il a pas tort. On doit d'abord aider les Français, puis après, bon, les étrangers après. Bon, maintenant, c'est la personne née en France, alors avec pas de papier, et puis qui savait très bien qu'au bout de 2 ans, il devait partir.
Ils viennent sans papier, on leur fait. Moi, je vais faire les papiers au Conseil Général ou n'importe quoi. Débrouillez-vous, monsieur, il manque toujours un papier. Et eux, on leur donne tout. Ils ont froid, on leur donne des vestes. Ils ont froid, on leur donne des chaussures. Et nous, bah écoutez, monsieur, hein, vous êtes un grand garçon, débrouillez-vous. Maintenant, je vais à la préfecture et tout, je m'appelle Mohamed Benrouo, et puis voilà, on me donnera à bouffer. Et puis on prendra mes six gosses, et puis touchera l'allocation familiale et les allocations logement.
Vous, madame?
Je reste partagée quand même, parce que je veux dire, on travaille pas des gosses à droite à gauche, on joue pas avec les enfants, je veux dire. Donc les séparer de la mère, je trouve ça aberrant quand même.
Mais je sais pas de la mère, c'est eux qui les séparent exprès pour qu'on ait encore plus pitié d'eux. C'est fait exprès aussi. Parce que moi, mon cas, j'ai pas d'enfant, on me dira, bah, t'as qu'à crever le vieux dans ton coin. Maintenant, je me mets avec deux gamins sur les marches, je tends la main, on me donnera peut-être un euro. Quand vous me dites un gamin de 8 mois, il est traumatisé, bah, moi, je voudrais bien voir un gamin de 8 mois qui est traumatisé s'il voit pas sa mère.
Paris, comme d'habitude, hein.
Ouais, bah oui, c'est la France. C'est la France profonde, c'est le blues et la souffrance du petit blanc, et qui n'est pas nul, qui n'est pas nécessairement un facho, hein, pas nécessairement un facho, raciste, oui, enfin tant que c'est pauvre contre pauvre, notre ami nouveau comique, révélé par France Inter, est tranquille. Consolation avec Sonia, qui marche avec d'autres pour dire son indignation, l'indignation de la population d'Algrange devant cette situation.
C'est froid, mais vous êtes présent quand même, hein. Le bonnet, le gros manteau.
Le manteau, et puis c'est comme feutré. C'est l'appel, là, on est venu à soutenir
une marche de sensibilisation spontanée. Il y a un beau soleil.
Oui, je trouve qu'il y a une lumière superbe sur cette forêt. Là.
Et une grande croix tout en haut.
Quand tu traverses notre région, tu vois que sur les hauteurs, partout, il y a des crucifix, des vierges. On a eu une histoire très marquée par la religion catholique qui a été relayée par les Devindelles. On a baigné dans un milieu catho, hein, disons que... Notre région, c'est une région d'intégration, une région qui a vécu l'accueil de populations immigrées tout au long de son histoire. Toutes les industries, les mines ont fonctionné par les mains des immigrés qui ont fabriqué, qui ont conçu, qui ont créé toutes les richesses de notre région. Et quand j'ai appris l'expulsion de Monsieur Rouab, pour moi, ça a été quelque chose de douloureux parce que c'est une des richesses sur lesquelles on s'est construit. C'est une des valeurs qui nous a paru essentielles et qui aujourd'hui nous paraît encore essentielle et qui me donne toute ma force d'indignation par rapport à ce qui se passe particulièrement là sur le cas de la famille Rouab. Mais ce sont pas les seuls. Hein. Quand on regarde ce qui se passe en France et quand on entend les hommes politiques et leur discours sur leur volonté de multiplier...
On est sur la route, on va monter sur le trottoir.
De multiplier par deux le nombre de reconduites à la frontière, je suis profondément indigné. Voilà, c'est profondément indigné parce qu'il n'intègre pas l'humain, la valeur humaine qui me paraît quand même être fondamentale dans la vie et dans la société.
Ça fait longtemps que vous habitez ici, à Grand?
Je suis née. Papa était mineur de fer. Donc il a passé toute sa vie comme mineur de fer au front, la mine d'Angilet. Avant, quand tu te baladais à Algrange, on savait qui on était. On est la fille de, le fils de, hein, notre père est mineur, on habite telle cité, chaque mine avait sa cité, chaque...
Donc votre père était mineur?
Oui.
Et vous?
J'ai travaillé dans la sidérurgie, hein. J'ai été employée de bureau, j'ai travaillé pendant... 26 ans, CID. Les différences étaient porteuses de richesses. On se retrouvait au casse-croûte. Quand on faisait la fête, on se retrouvait ou avec un couscous ou avec une pasta choute ou avec. Il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient partagées, qui étaient véhiculées, qui étaient reconnues et qui se transmettaient et qui étaient respectées, hein, au niveau des différents chantiers. Le fait de porter le même casque, de porter le même bleu, le même effacer toutes ces différences et permettre la reconnaissance de chacun. Chose qu'aujourd'hui, bon, parce qu'il y a crise, parce qu'il y a moins de boulot, il est beaucoup plus facile de montrer du doigt une population immigrée qui est minoritaire, qui est responsable de tous les maux. Alors c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à une minorité que d'aborder le fond du problème qui est d'un autre ordre que celui-là, il me semble.
Pour vous, c'est quoi le fond du problème?
Le fond du problème, c'est une société qui tourne pour dans un seul but, pour une seule valeur, qui est la valeur pognon, et où on n'intègre plus... quel sens a une société si elle ne tourne pas pour l'homme? Je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Si l'homme n'y trouve plus sa place, si l'homme n'existe plus, s'il n'est plus le centre de cette société, si elle ne fonctionne pas pour ça, je veux dire, on va n'importe où, on fait n'importe quoi, et il me semble que le problème est là.
Le chemin entre la vie est dure et c'est à cause des étrangers est
voilà,
très...
Le chemin est fait d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on sous-entend et c'est ce qu'on laisse entendre, hein, de toute manière, hein. C'est même plus sous-entendu, c'est dit ouvertement et officiellement, et je suis convaincue que il y a une volonté politique d'utiliser ces problèmes-là, de stigmatiser toute une population pour montrer qu'on s'occupe bien des Français, ils sont la priorité et qu'on évacue tout ce qui gêne, on évacue tout ce qui... Voilà, hein, c'est...
Le thème de la préférence nationale.
Oui, tout à fait, oui.
La préfecture, ce qu'elle a proposé, elle a dit à Madame Roy, vous rassemblez tous vos enfants, vous repartez tous rejoindre votre mari en Algérie, et là-bas, tous ensemble, vous faites une demande.
C'est n'importe quoi. C'est à moi de les renvoyer là-bas, mais après, ils leur donneront jamais les papiers. Ils vont faire traîner l'histoire pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à qu'ils baisseront les bras.
Ils sont venus ici dans le vide pour après retourner là-bas. Ils sont venus ici pour avoir une belle vie, que Yacine, plus tard, il aura un métier, faire ses études ici.
Ce que je comprends vraiment pas, c'est que ça fait 4 ans qu'il vit en France, et en 4 ans, l'État savait très bien qu'il vivait en France, dans la clandestine,
Avec la clandestinité.
Et c'est seulement maintenant qu'ils réagissent, qu'ils disent, ah bah tiens... C'est
voilà, pour avoir une belle vie, c'était un reportage dilatébi. Merci à tous, merci à Patricia Matujewski, à Monsieur Ganibin, à Sylvain Descamps, à Fatima, à Lagra, à Amine et ses copains, à Sonia et à Daniel. Samedi 18 décembre, l'association Agir ici, la CIMAD et Logistie organise une journée internationale en faveur des droits des migrants. Pour en savoir plus, www.gisti.org et plus d'informations à votre disposition sur le site de la base J'y suis en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui Antoine Viossa et Michel Thomas. Yann Chouquet, c'est les musiques. Pascal Hop, Pascariello, c'est l'assistante. Et c'est elle qui nous donne toutes les précisions sur le site franceinter.com, là-bas si j'y suis. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.